Zi n'est plus là. Vous avez le nouveau pasteur avec des lunettes. Ne soyez pas troublés par ce changement. Pour les amoureux de la mécanique, imaginez que vous soyez un adepte du tuning, d'améliorer votre voiture. Alors vous invitez vos amis, « Regarde, j'ai amélioré ma voiture, tu ne peux pas savoir ce que j'ai fait, j'ai mis des heures de travail, et regarde. » Et vous arrivez, vous essayez de démarrer, il n'y a rien. « Ah oui, il n'y a pas d'essence dedans, et le réservoir est vide. » Bon. Et le moteur, alors, le moteur, il ne reste plus qu'une soupape. Ah bon ? Ben dis donc. Une soupape, c'est tout, oui. Il n'y a plus qu'un cheval, une soupape. Et le reste, ben, il n'y a plus de fauteuil à l'intérieur, il y a juste le volant. Mais qu'est-ce que tu as fabriqué avec ta voiture ? Et c'est un peu ça, lorsqu'un chrétien dit qu'il est sauvé, dit qu'il a rencontré Dieu, et qu'on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Il est vide, c'est un chrétien dégonflé, un chrétien à plat. Et ça nous arrive à tous, n'est-ce pas, chers frères et sœurs, d'être à plat, de manquer justement de tout ce que Dieu nous a donné, de ne pas manifester ce qui s'est passé. Pourtant, quand on rencontre Dieu, ce n'est pas rien. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré quelqu'un de connu sur la terre, un président ou un acteur, un chanteur, un sportif. Ça vous est déjà arrivé ? Il y en a qui ont rencontré des gens connus ? Le pape, par exemple. Voilà. Ben, il est connu. Il était connu. Bien, vous vous en souvenez bien. C'est impressionnant d'approcher ces personnes, peu importe leur qualité ou pas, mais c'est très impressionnant. Mais rencontrer Dieu, celui qui a créé l'univers, toutes ces planètes extraordinaires qui sont dans l'univers, ces galaxies, qui a créé la terre, tous ces arbres, ces animaux, qui a pensé à tout ça, nous pouvons le rencontrer, le connaître. Et quand on le rencontre, on ne doit pas rester pareil. On ne doit pas être une voiture à plat avec le réservoir vide. On doit être rempli. Et c'est un peu le thème de mon message, c'est de nous encourager à être des chrétiens remplis. Le premier verset, parce qu'on va voir toute une liste, se trouve en Éphésiens chapitre 3, verset 19. Alors je vous encourage à regarder dans votre Bible. Il faut être comme les Juifs de Bérée qui vérifiaient dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Éphésiens 3, verset 19, Paul prie dans ce passage de sa lettre et il prie que vous puissiez connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On dirait qu'il n'a pas assez de vocabulaire pour exprimer ce qu'il veut dire, que vous soyez remplis toute plénitude. Ça fait trois mots identiques là pour dire, ah, si vous êtes chrétien, Dieu veut vous remplir. Et il commence avec l'amour de Christ. On n'est pas rempli seulement de connaissances, parce que si on est rempli de connaissances, qu'est-ce qui se passe ? La Bible nous dit la connaissance enfle. Et là, on est rempli de quoi quand on est enflé ? D'orgueil. Hein, la Bible dit qu'on est enflé d'orgueil. Et le but de Dieu, ce n'est pas qu'on ait la tête comme ça. Le but, c'est qu'on ait le cœur, l'âme comme ça. Bien sûr, il faut certaines connaissances. C'est important de connaître notre monde, connaître Dieu, connaître la Bible, connaître la théologie, etc., les doctrines. Mais là, il parle d'être rempli de Dieu jusqu'à toute la plénitude. Parfois, je me surprends moi-même à avoir un petit Dieu. Il est un petit peu dans ma vie, il est petit, il est comme ça. Seigneur, ah, si tu pouvais. Quand j'étais enfant, je jouais beaucoup avec les petits soldats, ils étaient tout petits comme ça. Est-ce que Dieu est un petit soldat, une petite chose dans ma vie, ou est-ce qu'il remplit ? Parce que Dieu remplit l'univers déjà. Est-ce qu'il ne peut pas remplir ma vie, remplir mon âme ? de sa grandeur, de sa plénitude. Un chrétien ne doit pas être rempli d'orgueil ou de péché ou d'égoïsme, il doit être rempli de Dieu. Jusqu'à la plénitude, il doit être un verre qui déborde, une source abondante. Ce qui est merveilleux aussi, c'est qu'on peut être rempli par Jésus-Christ. Colossiens chapitre 2, c'est l'épître, deux épîtres suivantes. Colossiens chapitre 2, verset 10. On va lire verset 9 pour le contexte. Car en lui, et il parle de Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il y a deux vérités très importantes là. La première, dans le corps de Jésus habitait pleinement la divinité, Dieu. Jésus était pleinement Dieu, en d'autres mots. Si vous avez des doutes sur le fait que Jésus soit Dieu, ce verset doit vous éclairer. En lui habitait corporellement toute la divinité. Et, c'est-à-dire, ce n'est pas qu'il y avait 50% de Dieu dans Jésus. Il n'y avait pas 50% Dieu, 50% homme. Hein? Il y avait 100% Dieu et 100% homme en Jésus. Cette vérité est importante parce que comment connaître Dieu puisqu'on ne le voit pas? On le connaît à travers le Seigneur Jésus. Dieu nous a parlé par le Fils. Dieu s'est révélé par le Fils. Et la deuxième vérité, nous avons tout pleinement. À chaque fois, il essaye de rajouter. Il ne dit pas « nous avons tout en Christ », il dit « nous avons tout pleinement ». Je crois que Paul, il aimait que les choses débordent. Quand on a commencé à faire le stand biblique dans les rues, on mettait une table en proposant de la littérature chrétienne et en particulier des Bibles. Celui qui nous a donné le stand, un frère donc d'une Bible par foyer, a dit « Grand conseil pour vous, il faut que la table soit remplie. Si vous mettez 2-3 livres au milieu comme ça, ça fait nul, ça fait mauvais. Il faut que ça déborde, il faut qu'il y ait des livres, des Bibles. Il faut que les gens voient que ça déborde parce que ça donne envie d'y aller. » Alors on peut dire que c'est un principe peut-être de commerçant ou je ne sais pas, mais on donne les Bibles, donc on n'a rien à vendre et on n'a pas d'argent à faire là-dessus. Mais c'est pour dire, Dieu veut qu'on soit rempli. Il ne veut pas qu'on soit des chrétiens secs, rabougris, dégonflés. Et nous avons tout pleinement, tout pleinement. Est-ce qu'on peut faire plus que tout pleinement? Est-ce qu'il me manque quelque chose? Est-ce que je peux dire, oui, moi il me manque quelque chose dans la vie? Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Il y a une contradiction là. S'il me manque quelque chose, c'est que je ne suis pas allé la chercher au bon endroit, ou c'est peut-être que c'est un faux manque. Des fois, on pense qu'il nous manque quelque chose. Ça ne vous arrive pas de dire, si j'avais 10 000 euros sur mon compte, ça m'aiderait beaucoup pour le mois prochain. Il me manque 10 000 euros, là. Au fond, le Seigneur peut nous donner tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin d'être plus riche que l'on est. Des fois, on dit, ah, je manque d'amour, je me sens seul. Mais on oublie que le Seigneur est là. Même si on est seul, c'est vrai, parfois, humainement, le Seigneur nous aime et il est là avec nous tous les jours. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que je le crois? Et puis, on doit être rempli de l'Esprit. Et là, vous avez remarqué, hein, rempli de Dieu, rempli de Christ, rempli de l'Esprit. La Trinité, en tant que mot, ne se trouve pas dans la Bible, mais elle est très souvent exprimée autrement, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Qu'est-ce qui se passe quand on est rempli d'alcool? Bien, c'est l'alcool qui nous dirige. Hein. On fait des choses qu'on ne ferait pas d'habitude, en général des mauvaises choses. On perd ses réflexes, on perd son discernement, on perd son jugement. Eh bien, rempli du Saint-Esprit, c'est tout l'inverse. Quand on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous gouverne pour le bien, pour avoir du jugement, du discernement, pour aimer, pour être attentif aux autres. Et Dieu dit, soyez remplis. Et ce qui est étonnant et qu'on ne voit pas dans le français là, de la Bible second, c'est qu'il dit ça à l'Église. Il dit, soyez ensemble. Et un autre mot qu'on ne voit pas, mais qui est dans le temps du grec, soyez ensemble, continuellement remplis. Dieu veut qu'on soit continuellement remplis et ensemble. C'est pour ça que c'est important de se réunir régulièrement à l'Église. Parce que quand on est ensemble, on peut être remplis tous ensemble. Quand on est seul, c'est plus dur, c'est vrai. Parce qu'on est seul à la maison, on n'a pas beaucoup d'encouragement. Mais à l'Église, on devrait recevoir des encouragements. Par les chants, par les prières. Par simplement l'Esprit de Dieu qui nous remplit tous ensemble. Est-ce que je marche rempli du Saint-Esprit? Ou est-ce que le Saint-Esprit, encore une fois, je lui laisse une toute petite partie de ma vie? 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Dieu veut qu'on soit rempli. Et puis, il veut qu'on soit rempli de foi. Hébreux 10, 22. Approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, avec une foi entière. Où en est ma foi? Est-ce que j'ai une foi entière ou une foi à moitié? Est-ce que j'ai qu'une soupape dans ma foi ou est-ce que j'ai 16 soupapes? Est-ce que je suis rempli de foi? Seigneur, tu peux tout. Rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est la plénitude de la foi. Seigneur, j'ai beaucoup de problèmes dans ma vie, mais rien n'est trop dur pour toi. Tu vas m'aider à les traverser victorieusement. Seigneur, je suis en grande difficulté, j'ai une affliction, je suis triste, mais Seigneur, tu peux tout. Par ma foi, je vais me réjouir dans cette épreuve. C'est ça la plénitude de la foi. Mais la non-plénitude, le fait d'être bancal dans sa foi, c'est commencer à murmurer, à se plaindre à Dieu. Dire, mais Seigneur, pourquoi tu ne fais pas ça plus vite ou plus fort? Ou de douter, de dire, mais je me demande vraiment si la prière, ça sert à quelque chose. Je me demande si Dieu, vraiment, il nous entend. Ça, c'est le doute. Et la Bible dit que celui qui doute n'espère pas avoir quelque chose du Seigneur. Pour avoir quelque chose, il faut avoir la plénitude de la foi. Et on doit s'approcher dans la plénitude de la foi. Une autre plénitude se trouve dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. Un verset vraiment profond et important. De Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Paul écrit cela à Timothée parce que Timothée avait une tendance à la timidité. C'était un jeune pasteur, mais il avait peur de prendre position d'abord pour Christ, parce qu'il y avait des persécutions, et il avait peur de prendre position dans l'église devant les gens plus âgés que lui, il était jeune, et il était tellement timide que finalement son ministère était rétréci. Et Paul lui dit, il faut arrêter la timidité, ce n'est pas la foi, c'est le contraire de la foi. Et l'esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force, d'amour, de sagesse. J'aime bien force et amour parce que force, on pourrait penser que l'esprit nous remplit de violence. Non, c'est une force aimante, mais c'est une force intérieure. C'est étonnant comme quelqu'un qui est rempli de l'esprit peut avoir une force spirituelle, une influence, alors que le reste du temps, c'est quelqu'un de très humble qui ne parle pas beaucoup, mais la plénitude de l'esprit vous transforme. Et puis, force, amour et sagesse. Là, le mot, ce n'est pas simplement la sagesse pour vivre, c'est avoir un esprit sain, S-A-I-N, un esprit carré, droit, qui fonctionne bien. Et là, il arrive souvent que nos pensées fonctionnent de travers. Nous n'avons pas un esprit de sagesse parce qu'on pense de travers. C'est-à-dire, il y a plein de façons de penser de travers. On peut dire, de toute façon, personne ne m'aime, personne ne s'intéresse à moi. Donc ça, c'est des pensées de travers. C'est à la fois égocentrique et à la fois faux. C'est faux que personne ne s'intéresse à vous. Ou de penser, de toute façon... En France, les gens sont trop durs, personne ne veut se convertir, donc c'est même pas la peine de prier pour les gens. Ça, c'est faux. Il y a plein de gens qui viennent au Seigneur. On ne les voit pas tous, nous, dans notre église, mais il y en a plein partout en France. Des mauvaises pensées, on en a plein, de dépression. Mais à quoi ça sert que je fasse ça? Et puis personne ne me dit merci. Et puis j'en ai marre de travailler comme ça pour rien. Et nos pensées de travers, de travers. Et le Saint-Esprit nous donne une pensée saine, réaliste, vraie sur les choses. Mais pas simplement vraie, mais aussi avec la foi. Seigneur, c'est dur, mais avec toi, je vais avoir la force de m'en sortir. Il nous donne cet esprit de sagesse, de force, d'amour. Dieu veut qu'on soit rempli aussi de bénédictions. Regardez Romains 15, 29. Et la liste est longue. C'est en soi déjà un signe. C'est que Dieu veut vraiment qu'on soit rempli. Alors il nous dit de quoi on doit être rempli. Et il y a toute une liste là. Romains 15, 29. On ne le regarde pas souvent ce verset. « Je sais qu'en allant vers vous, écrit l'apôtre Paul, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. » Il vient avec une pleine bénédiction. Et ailleurs dans Éphésiens, un verset que j'aime beaucoup aussi, Éphésiens 1, 3, il dit « En lui, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. » C'est-à-dire, nous avons été bénis de toutes les bénédictions possibles et imaginables. Alors là encore, on peut douter, on peut dire « Moi, je ne me sens pas si béni que ça. Moi, je ne me sens pas très béni. » Oui, peut-être tu ne le sens pas, mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu ? Nous avons été bénis et je vais venir avec vous avec la pleine bénédiction. Dieu veut qu'on soit rempli de sa bénédiction et Dieu veut nous remplir. J'aimerais qu'on soit persuadé de ça. Dieu ne veut pas des chrétiens à plat, à moitié vide. Il veut des chrétiens remplis, qui débordent de lui, de sa présence, de son amour, de sa force, de sa sagesse et de bénédiction. Que partout on passe, on soit une bénédiction. Ça, c'est important. Paul, partout où il allait, il se passait quelque chose. Il y avait une bénédiction qui venait, un encouragement, une force spirituelle. Souvenez-vous, quand cette femme a touché le manteau de Jésus, il est dit qu'une force est sortie de Jésus. Quand on a l'esprit de Jésus-Christ et qu'on approche les gens ou que les gens s'approchent de nous, il y a une force, on peut dire. La bénédiction de Dieu. Ça se répand sur notre famille, sur notre prochain, sur nos collègues au travail. Il y a une bénédiction qui sort du chrétien, qui doit sortir. Mais il faut être rempli de Dieu d'abord pour que cette bénédiction soit pleine. Romains toujours, chapitre 15, verset 13, Dieu veut nous remplir de joie et de paix. Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Voilà, ce verset suffirait à lui seul à tout dire. Vous avez vu encore, toute, abonde, remplisse, puissance. Est-ce que nous ne passons pas à côté de quelque chose là, hein? Par notre vie chrétienne chaotique, chaoteuse, chaotante, je ne sais pas comment dire, notre moteur poussif, parce que le moteur du chrétien c'est la foi. Le Seigneur dit qu'il est le Dieu de l'espérance. Si vous désespérez, si vous êtes abattu, votre Dieu est le Dieu de l'espérance pour vous relever. Vous remplisse de toute joie. Il ne dit pas qu'il vous donne un peu de joie pour tenir le coup pendant 5 minutes. Il dit qu'il vous remplisse de toute joie, que vous soyez éclatant de joie, dans l'allégresse. Il dit oui, mais vous ne passez pas par ce quoi je passe, moi. Je suis dans l'épreuve, c'est difficile, je souffre. Et Dieu, bien sûr, sait qu'on souffre, il est compatissant. Mais même dans la souffrance, on peut se réjouir. Jacques écrit « Réjouissez-vous hein, des épreuves ». Pourquoi on peut se réjouir des épreuves? Parce que ces épreuves nous rapprochent de Dieu, nous approfondissent dans la foi, nous apprennent qui nous sommes vraiment et nous montrent que Dieu est merveilleux. Et on peut se réjouir des épreuves qui nous arrivent. Et on peut être rempli de toute joie et de toute paix. Parfois, il y a tellement d'épreuves qui arrivent ou tellement de changements dans notre existence qu'on est déstabilisé, on perd sa paix. Le chrétien doit veiller sur sa paix intérieure. La paix de Dieu dans sa vie. Si vous êtes dans la panique, dans l'angoisse, vous n'êtes pas dans un état normal pour le chrétien. L'état normal du chrétien, c'est toute paix et toute joie. Vous avez peut-être lu déjà, et si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à le lire, « La vie chrétienne normale » de ce chrétien chinois Watchman Nee. La vie chrétienne normale, on pense qu'il va parler des choses basiques, il faut prier, il faut lire la Bible. Non, il dit « La vie chrétienne normale, c'est la vie de plénitude. » Si vous n'êtes pas rempli de l'esprit, vous n'êtes pas dans la vie chrétienne normale. Le grand homme de réveil écossais, James Stewart, que le pasteur Somerville a croisé dans son ministère en Tchécoslovaquie. Donc cet homme a vu des réveils assez extraordinaires dans les pays de l'Est, où des centaines de personnes venaient à la foi, des chrétiens étaient transformés, des chrétiens endormis devenaient transformés. Et il écrit aussi au sujet de la vie chrétienne normale, il dit... Le chrétien doit être tout le temps rempli. C'est ça la normalité de Dieu. Quand le chrétien est à plat, c'est pas normal. On doit aussi être rempli de la volonté de Dieu. Colossiens 1:9. Il y a une chose dans la vie qui est importante, c'est de savoir ce que Dieu veut pour nous. C'est souvent un problème pour les chrétiens, parce qu'il dit « je cherche la volonté de Dieu, mais je n'en suis pas sûr ». Et là, Paul prie à ce verset 9 de Colossiens 1, « Nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Remplis en toute sagesse. Là encore, il ne demande pas, Seigneur, au moins donne-leur une petite lumière qu'ils puissent voir un peu en tâtonnant où ils doivent aller. Non, il veut qu'on soit rempli de la connaissance de sa volonté, que ce soit évident, clair pour nous. Voilà ce que Dieu veut. Dieu m'appelle à cela, Dieu m'appelle à faire cela, et que j'ai une sagesse et une intelligence spirituelle dans ces choses. Dieu ne veut pas nous montrer sa volonté par des signes. Si le téléphone sonne à 9h30, c'est qu'il faut que j'aille travailler aujourd'hui. S'il ne sonne pas, je reste au lit. Bon, ce n'est pas comme ça qu'on cherche la volonté de Dieu. Ce n'est pas par des signes superstitieux. On doit avoir la sagesse, l'intelligence des choses spirituelles. Et parfois, la volonté de Dieu, c'est subtil. Bien sûr, on dit, est-ce que je dois déménager là? Est-ce que je dois me marier avec telle personne? Là, c'est des grands sujets. Mais il y a plein de choses dans la vie quotidienne où on voudrait savoir la volonté de Dieu. Seigneur, j'ai le choix entre ça et ça, et les deux choses sont bonnes. Lequel je fais? Quel est le plus important aux yeux de Dieu? Et quand on a la sagesse, toute sagesse et intelligence spirituelle, ces choses sont assez évidentes. Le Saint-Esprit nous guide. Voilà, voilà. C'est Ésaïe qui dit, le Saint-Esprit vous conduira, il vous dira, va à droite, va à gauche. On dit, ah ça c'est pour les prophètes, c'est pour les missionnaires. Non. C'est pour tout chrétien qui est rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est pour tout chrétien. Là aussi, j'aimerais nous en persuader. On dit, non, mais ça, c'est les super chrétiens. Il y a l'élite, tu vois, les diplômés de l'évangile, les diplômés du salut. Moi, je suis juste un chrétien de strapontin, de deuxième classe, troisième classe. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que Dieu a établi des classes chez les chrétiens? Même les pasteurs et les évangélistes, les prophètes, n'étaient pas des premières classes. Dieu dit que Élie, par exemple, qui est un prophète extraordinaire quand même, si on lit son histoire dans l'Ancien Testament, était un homme de la même nature que nous. Ce n'était pas un surhomme. Qu'est-ce qui fait qu'il a fait ces choses-là? Il était rempli de Dieu. Quand on est rempli de Dieu, on fait des choses étonnantes. On s'étonne même, parce que Dieu est grand. Nous ne devons pas limiter Dieu dans ce qu'il peut faire à travers notre vie. Nous devons être remplis. J'ai pas fini ma liste. Rempli de fruits. Philippiens 1:11. Mais ce sera le dernier pour aujourd'hui. Encore une fois, c'est une prière de Paul qui commence au verset 9 de Philippiens 1. Et au verset 11, il dit « Je prie que vous soyez remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Dieu veut qu'on soit rempli de fruits. C'est beau un arbre fruitier qui est en fleurs ou en fruits. Un arbre d'hiver, hein, c'est vraiment lamentable, hein, c'est triste. On voit juste ses branches, c'est en train d'arriver là en ce moment. Ça me déprime rien que de les voir toutes ces feuilles tomber. Je dis, ah, après on va voir ses bras noircis et tordus. On verra plus les belles couleurs. Et il y a des chrétiens comme ça, ils n'ont pas de feuilles, ils n'ont pas de fruits. Il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce que la sève ne coule pas, ils ne sont pas remplis. Dieu veut qu'on soit remplis de fruits. Et on doit prier ça pour nos frères et sœurs. Vous ne savez pas quoi prier ? Ben, priez que vos frères et sœurs soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu et remplis du fruit de justice, à la gloire de Dieu. Parce que le vrai fruit est toujours à la gloire de Dieu. Le fruit humain, le fruit de nos efforts, c'est notre gloire. J'ai fait ça, j'ai réussi, je me suis battu et j'ai obtenu gloire à moi. Maintenant, le fruit de justice dont il parle, c'est nous avons prié. Nous avons lutté, c'est vrai aussi, hein, nous avons lutté. Mais le Seigneur a triomphé, gloire à Dieu. C'est Dieu qui a toute la gloire dans le vrai fruit de justice. Est-ce que votre vie porte du fruit ? Est-ce qu'il y a plein de fruits qui sortent ? C'est quoi les fruits de justice ? Ben, c'est la bonté, l'amour, la bénédiction, justement, des âmes touchées par l'Évangile, votre famille qui est bénie par votre amour, votre protection. Des fruits, il y en a plein, tout le temps. On doit porter tout le temps du fruit. Ça ne doit pas être exceptionnel. Alors Dieu veut qu'on soit rempli de sa présence, rempli de son amour, rempli du Saint-Esprit, rempli de foi, rempli de force, d'amour, de sagesse, rempli de bénédiction, rempli de toute joie et de toute paix dans la foi, rempli de la connaissance de sa volonté, rempli du fruit de justice. Et je pourrais continuer, etc., etc. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas plus remplis ? Qu'est-ce qui cloche ? Ce n'est pas Dieu qui cloche. C'est que nous avons bouché la source, comme toujours. Hein ? La source est bouchée. Et ça ne peut pas remplir. La source est bouchée par nos péchés, par nos doutes, par notre rébellion envers le Saint-Esprit. Le Seigneur nous montre quelque chose et on dit « Non, moi je ne veux pas ça, je veux faire comme ça ». Là, on ne peut pas être rempli, c'est sûr. Mais aussi, pour être rempli, il faut s'approcher de Dieu, il faut chercher Dieu, il faut connaître Dieu. Là aussi, c'est quelque chose qui nous manque dans nos vies agitées et trépidantes. Hein. On ne prend pas le temps de s'arrêter et de chercher Dieu, de le trouver dans la Bible, de trouver dans la prière. On parlait, jeudi, avec les frères de Gif, du désert. Dans le désert, c'est un temps extraordinaire pour s'arrêter et pour contempler les œuvres de Dieu et s'approcher de Dieu. Parce que dans le désert, il n'y a rien d'autre que vous et le ciel, les étoiles, et du coup, il y a vous et Dieu, en fait. Et on a besoin de désert de temps en temps dans notre vie parisienne. Et parfois, Dieu nous amène des déserts avec une maladie. Hein. Vous êtes cloué au lit. Oh, voilà, je ne peux pas aller travailler, je me mouche, je tousse. Oh, j'en ai marre, hein. Mais profite de ce temps pour chercher Dieu. Profite de ce temps où tu peux être tout seul avec ta Bible et dire « Seigneur, je veux te connaître ». Rappelez-vous Job. Job était un croyant très moral, très droit, très scrupuleux. Il suivait la loi de Dieu à la lettre. Et puis il y a eu cette terrible déferlante qui a rasé sa vie. Satan a détruit tout dans sa vie, jusqu'à sa santé. Et on peut dire, mais quel gâchis! Cet homme, il avait une vie heureuse, il avait plein d'enfants, plein de chameaux, plein d'ânes, plein de... Il avait une ferme florissante. Pourquoi Dieu a permis que Satan frappe cet homme? Et si vous lisez la fin du livre de Job, Job dit, je croyais te connaître, hein, mais maintenant je te connais. Presque il a vu Dieu, on peut dire. Hein. Voilà, mon oreille avait entendu parler de toi, mais mon œil t'a vu. Dans cette épreuve, il a rencontré vraiment son Dieu. Il croyait en Dieu, il connaissait Dieu d'une certaine façon, mais là, il l'a connu d'une autre façon. Dieu l'a amené dans un désert terrible. Hein. Je pense que c'est un des hommes qui a le plus souffert. Et Dieu veut se révéler à nous, qu'on le connaisse, que ce ne soit pas juste de la religion, de la religiosité, des théories pour nous, mais qu'on ait une relation personnelle, profonde, intime avec notre Seigneur. Que le Seigneur, eh bien, nous remplisse. Ayons la foi pour dire, remplis-moi Seigneur, chaque instant de la vie. Et qu'on soit rempli déjà de joie en chantant un dernier cantique.
Et comme les choses sont bien faites, on va chanter que nous sommes remplis des bienfaits de Dieu. Donc c'est le numéro 45, oui. Nous allons nous mettre debout.